Bonjour à tous, la grande table avance avec le mois d'août sur les sentiers des artistes à 13h50. François Sureau nous fera découvrir Rouen, sa cour de cassation et la tradition des duellistes. Mais avant cela, nous allons parler du plaisir féminin au cinéma qui démarre avec l'extase en 1933. Premier orgasme féminin représenté frontalement, premier affront. Une histoire en pointillé, jalonnée de scandales, de censures, de vagues nouvelles ou réactionnaires et surtout de longues plages de silence. Derrière la question du plaisir se niche celle du regard posé sur un sujet à part entière, lui-même empreint d'un désir trop souvent kidnappé par le regard masculin. Nos invités autour de la grande table sont Marie-Camille Bouchindhomme, enseignante en esthétique du cinéma à l'Université catholique de Lille et à la Sorbonne Nouvelle, Geneviève Cellier, historienne du cinéma, spécialiste des questions de genre et de leur représentation à l'écran, et Esther Bréjon, critique pour Revue et Corrigée. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
On dit que ça commence avec l'extase, je m'avance peut-être. Peut-être qu'il y a eu d'autres représentations avant, mais c'est le fait marquant, Esther Bréjon. C'est l'arrivée de ce film en 1933, qui est encore un film quasi muet, quelques dialogues.
Oui, en effet, c'est un film presque totalement muet. Il y a des dialogues juste vers la fin. C'est un film de 1933, comme vous l'avez dit, réalisé par Gustav Machaty, un cinéaste tchèque, et avec comme actrice pour le personnage principal, Hedwig Kissler, jeune actrice autrichienne de 16-17 ans, qui est la future grande star hollywoodienne Hedy Lamarr.
Alors elle va le rester, mais cette image-là va lui coller à la peau, parce que ce personnage d'Eva, il a une particularité, c'est que on le représente dans son adultère aussi. C'est ça le cœur de cette histoire.
Mais en fait, c'est pas vraiment un adultère. C'est qu'elle divorce avant de trouver un amant. Ça, on le voit vraiment dans le film, c'est qu'elle n'est pas heureuse avec son mari. Le film commence avec leur nuit de noces. Disons que Machaty, il met les pieds dans le plat direct dès les premières minutes du film. Ça commence avec la nuit de noces de Eva avec son Marie, qui est plus âgée qu'elle. Ils rentrent dans leur appartement, ils découvrent voilà, leur appartement tous les deux, un peu la vie à deux, ce que ça va être. Ils se préparent pour cette fameuse nuit de noces où finalement il ne va rien se passer. Moi j'aime beaucoup cette première scène parce que la mise en scène de Machaty, elle fourmille de petits détails, en fait, de choses qui finalement sont très symboliques, sont des métaphores de cette vie sexuelle qui ne va jamais en fait exister, d'un bonheur du couple qui ne va jamais en fait trouver son bonheur. Lui, le mari qui est plus âgé, il est très maniaque, il s'occupe de ses chaussons, de ses chaussures, de ses petits objets, enfin voilà, il n'est pas très porté sur la chose. Et elle, en fait, elle va passer la nuit toute seule, toute la nuit toute seule dans son lit. Elle ne sera jamais rejointe par son mari, et donc elle va finalement décider de divorcer parce qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle ne rencontre pas ni le plaisir charnel avec son mari, ni même l'amour, quoi. En fait, il a pas d'affection avec elle, il a pas d'attention. Et
alors d'ailleurs, petite parenthèse, Geneviève Cellier, c'est l'une des raisons pour lesquelles il va y avoir des censures et des scandales autour de ces films-là. Ce ne sera pas le seul. C'est la critique du mariage qui est sous-jacente. Alors soit parce qu'il y a divorce, soit parce qu'il y a adultère. C'est aussi le cas des amants de Louis Malle.
Oui, alors il faut quand même faire une grosse différence entre le cinéma européen et le cinéma américain de ce point de vue-là. L'adultère, je dirais, est une pratique ordinaire dans la culture européenne et dans les œuvres d'art, enfin dans la littérature et au cinéma.
Même la peinture.
Et la peinture, c'est souvent la femme qui est coupable, alors que dans la réalité sociale, en général, c'est le mari qui prend des libertés le plus souvent avec l'institution, mais ça ne prend jamais un caractère délictueux au sens où Hollywood, à partir de 34, va le configurer, c'est-à-dire une femme adultère sera forcément punie.
Mais outre la question de l'adultère, la question de la critique du mariage, ça va faire partie des censures, et notamment des censures religieuses du Vatican, le fait qu'il y ait justement une représentation critique du mariage.
Oui.
Y compris dans sa fonction sexuelle, une sorte d'échec.
Oui, mais encore une fois, c'est plus fréquent dans le cinéma hollywoodien que dans le cinéma européen. Plutôt, la critique du mariage, est plus fréquente dans le cinéma européen que dans le cinéma américain. Dans le cinéma américain, toujours à partir de 33 du Code Hays, ça devient une obligation de le programmer comme happy end. Il n'en est rien dans le cinéma européen. Le mariage, par exemple, on en a un très bon exemple dans le film de Germaine Dulac, La souriante Madame Bedée, qui est une critique frontale du mariage patriarcal comme lieu d'ennui sans fin pour l'épouse qui est confinée au foyer et qui ne sait pas pourquoi elle existe. Enfin, le mariage bourgeois est assimilé très souvent à un enterrement de première classe pour la femme.
Hein. Mais là, Marie-Camille Bouchain-Dôme, on reprend toute la thématique aussi de la littérature du 19e siècle. C'est ces ponts-là que l'on retrouve entre le cinéma, la littérature, ces représentations du mariage comme ennui.
Oui, alors pour parler plus précisément du cinéma et d'un film très récent, le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, l'action se passe en 1770 et il y a dans le film évidemment une révélation, une critique de ce mariage qui est...
C'est un mariage forcé déjà.
C'est un mariage forcé et c'est dans Portrait de la jeune fille en feu, c'est la raison même de la rencontre entre Héloïse et Marianne, puisque Marianne, une jeune peintre qui est une peintre qui reprend l'atelier de son père, qui reprend des commandes, est envoyée sur une île en Bretagne pour faire le portrait d'Héloïse qui va être mariée à un Milanais. Mariée à un homme qu'elle n'a jamais vu, dont elle ne sait absolument rien et dont la mère pense, une comtesse, qui elle-même a été mariée à un homme qu'elle ne connaissait pas, pour lequel on avait fait le portrait auparavant. Eh bien, c'est le point de départ du film, ce mariage forcé, ce mariage arrangé et l'idée de la mère qui est que peut-être à Milan, elle s'ennuiera moins. La fille, certes, mais la mère aussi.
Alors c'est aussi l'idée que le mariage ne démarre que par la vision de cette femme-là, c'est-à-dire que la vue plutôt de ce portrait, c'est-à-dire que le Milanais en question qui doit l'épouser va la découvrir à travers son portrait, donc son apparence est la seule chose qui compte dans le projet du mariage.
Alors oui.
Avec le background social quand même.
Oui, et puis c'est aussi, alors ça c'est une tradition de la peinture qui est très très ancienne, hein. Ça remonte à la Renaissance où on faisait dans les familles bourgeoises et aussi dans, bien sûr dans la royauté, il y a des portraits qui ont été envoyés à Henri IV, des portraits de Marie de Médicis qui sont au Louvre, où il y avait cette tradition de faire le portrait, de l'offrir pour que le souverain ou le bourgeois ait une image de sa femme avant de la rencontrer. Il y a aussi des portraits, par ailleurs c'est une petite digression, il y a aussi des portraits qui ont été faits par des couples pour des couples qui se connaissaient et où il y a des écarts dans la représentation. Bon, en tout cas, dans le portrait de la jeune fille en feu, effectivement, c'est par l'image que l'homme connaîtra sa femme avant même de la voir réellement. Et il y a un moment dans le film quand la jeune femme Héloïse donc va accepter de poser pour Marianne la peintre, où Marianne va diriger la posture d'Héloïse qui est en face d'elle et elle lui demande de défaire le vêtement qui cache sa poitrine, qui cache son décolleté, qui cache sa gorge. Et la jeune femme va s'exécuter, mais vraiment timidement. Et elle va ensuite lancer à Marianne, « Eh bien, vous pensez déjà à mon mari ?» C'est-à-dire que la peintre pense au regard du mari sur la jeune femme qui devra dévoiler une partie de ses atouts, et en l'occurrence la gorge.
Esther Brejean, pour en revenir à l'extase, la même question qui est posée, c'est celle du regard que l'on porte sur le comédien ou la comédienne qui est représentée. En l'occurrence, c'est une surprise dans l'extase que de voir que le point de vue du plaisir féminin est premier et finalement l'amant avec laquelle elle va connaître son éveil sexuel réel est complètement accessoire.
Oui, dans le film. Il est vraiment réduit à sa fonction utilitaire, le pauvre amant. Oui, c'est vrai qu'en fait, rien que la scène d'orgasme, elle est vraiment autour du plaisir d'Eddie Lamar, de son personnage Eva. Lui, il disparaît carrément en fait du cadre. Il y a un moment où, pendant quelques instants, on ne le voit plus. Et la caméra, c'est un gros plan sur son visage à elle, ses expressions. Sa main qui tombe pour montrer le soulagement, le plaisir, son collier de perles qui se brise. Ça, c'est encore un détail intéressant parce que au tout début du film, lors de la nuit de noces, son mari enlève avec soin, avec précaution son collier de perles et d'ailleurs se pique le doigt, se fait mal avec et voilà. Et là, pour le coup, le collier de perles, ça y est, enfin, il est tombé par terre, il a explosé et on comprend là que la passion a enfin eu lieu.
Alors pourtant, l'histoire, elle est complexe puisque cette histoire de film, elle ne sera pas forcément l'histoire que va connaître la comédienne qui elle-même va avoir ce rôle qui va lui coller à la peau. Je vous propose d'écouter une archive d'Eddie Lamar. C'était justement suite au film.
Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait une scène dans laquelle j'étais complètement seule. Ils l'ont manipulée au montage pour donner l'illusion d'une scène torride. Mais c'était faux. Vous avez dû voir des photos. J'ai dit, pourquoi dois-je tenir mes bras comme ça? Il a dit, pose pas de questions. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas le regretter. Alors fais ce que je te dis. Je ne voulais pas faire d'histoire, alors j'ai suivi les instructions. Quand je suis rentrée à Vienne, mon père, c'était horrible, il était prêt à me tuer.
Alors, ce témoignage est extrait d'un documentaire sur Eddie Lamar et on voit que l'envers du décor n'est peut-être pas le même que ce qui est montré dans le film. Hein. Le film très moderne ne montre pas que derrière, l'actrice va devoir faire face à un milieu qui l'est peut-être beaucoup moins.
Oui, en fait, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte avec ses rapports avec Gustave Machatti, le réalisateur d'Extase. En fait, elle en a déjà aussi parlé dans son autobiographie, Extase Enemy.
Donc, elle aurait été manipulée en réalité pendant les scènes.
C'est compliqué parce qu'en fait, Eddie Lamar, elle a beaucoup romancé sa vie. En fait, quand elle raconte dans son autobiographie cet épisode du tournage de la scène d'orgasme, en fait, elle raconte deux choses. Elle raconte que oui, effectivement, Gustave Machatti ne l'a pas traitée avec beaucoup de respect. Elle avait 16-17 ans, était toute jeune. Apparemment, il l'aurait piquée avec une épingle pour à nourrice pour que elle ait mal et que en fait son visage traduise les expressions du plaisir. Enfin, en tout cas, qu'elle traduise quelque chose avec son visage. Mais en même temps, elle dit que l'acteur qui jouait son amant, Adam, lui, était déjà dans un jeu très réaliste, un peu qui faisait penser à l'acteur studio, et que lui-même a été extrêmement enthousiaste pendant cette scène, et qu'elle-même s'est laissée prendre par l'enthousiasme de cet acteur. Donc en fait, c'est un peu ambivalent ce qu'elle dit. En plus, ce film, c'est l'adaptation libre de L'amant de Lady Chatterley. Donc on connaît l'histoire de Lady Chatterley. Elle devait savoir qu'il allait y avoir une scène de plaisir à un moment, comme il y avait des scènes de nudité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle a reproché au réalisateur.
Oui, mais comment encore faut-il savoir dans quel contexte on les fait, qu'est-ce qu'on en dit à la comédienne? C'est des questions qui vont revenir, Julien Cellier, bien plus tard avec Abdelatif Kechiche sur les questions.
Des questions tout à fait contemporaines, le rapport de domination entre le réalisateur et une actrice qui, plus elle est jeune, évidemment, plus elle est dominée.
Et la question du montage aussi, hein, la question du montage des images aussi, la
manière. Oui, mais je dirais d'abord le fait que c'est un rapport de domination
sur le plateau,
genré, hein, et que par exemple c'est pas tout à fait hasard si Kechiche est devenu entre guillemets un découvreur de jeunes actrices, c'est-à-dire que en fait il et ça date pas de la vie d'Adèle, hein, il y a eu plusieurs occasions où il fait jouer des jeunes femmes qui, en général, ne sont pas actrices au départ et qui sont avec lui dans un rapport de dépendance totale, professionnelle, mais aussi affective. Et elles n'ont absolument pas la possibilité de discuter la mise en scène ou de refuser par exemple des scènes de nu ou des scènes bon etc. Et donc c'est je dirais un problème structurel du cinéma que les femmes très jeunes y sont devenues des objets de désir proposés au public masculin mais pas que et que les réalisateurs en général qui ont le double au moins de leur âge les découvrent en les mettant en scène dans un rapport qui est totalement inégal.
Alors, il y a ce qui se passe du point de vue des dominations du côté du travail du plateau, puis il y a ce que l'on voit aussi à l'écran. Un contre-exemple, il en faut. Parmi d'autres, vous avez décidé de nous parler, Geneviève Cellier, des amants de Louis Malle. Et là, c'est bien le point de vue féminin de la voix off de Jeanne Moreau qui est
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça.
En partie.
C'est un peu plus compliqué que ça, puisque la voix off de Jeanne Moreau parle d'elle à la troisième personne du singulier. Donc, c'est pas un jeu. Et cette distance est déjà caractéristique du, je dirais, du rapport ambivalent que Louis Malle a avec ce personnage, qui, de toute évidence, est le sujet du film, mais aussi l'objet du regard du cinéaste. Et cette scène très célèbre à juste titre où Jeanne Moreau mime l'orgasme et qui a été saluée à l'époque par la critique française comme un moment de très grande poésie, hein, y compris par les très rares critiques femmes qui écrivaient à l'époque, elle est remarquable parce que la caméra effectivement est centrée sur le visage de Jeanne Moreau, sur lequel on va découvrir la montée du plaisir. Et il y a un très beau mouvement de caméra qui va de son visage à sa main, quand elle saisit la main de son amant, en train de lui faire un cunnilingus et qui provoque l'orgasme. Ce détour... est un détour poétique, on pourrait dire, hein, mais en même temps, l'amant, qui effectivement n'est plus dans le champ au moment où on voit sur le visage de Jeanne Moreau la montée du plaisir, l'amant est une sorte d'alter ego, y compris physiquement d'ailleurs, de Louis Malle. À l'époque, Louis Malle et Jeanne Moreau étaient amants. Et quand il parle de cette scène, il raconte bien qu'il avait fait sortir tous les techniciens, il en avait gardé le minimum, et que c'était une scène extrêmement intime, d'une certaine manière.
C'était une sorte de mise en abîme.
C'était une sorte de mise en abîme de leur relation amoureuse, avec une considération pour l'importance du plaisir féminin qui est totalement nouvelle dans le cinéma français, dans le cinéma en général.
Notamment en 1958, on va écouter un extrait des Amants.
Laissez-moi, je ne veux pas. Vous n'avez pas le droit.
L'amour peut naître d'un regard. Jeanne, en un instant, sentit mourir sa gêne et sa pudeur. Elle ne pouvait hésiter. On ne résiste pas au bonheur.
Alors, quelques mots peut-être, Esther Bréjon, sur cette scène. C'est le moment où elle cède à son amant. Alors, on entend de par la musique que c'est une scène à la fois assez poétique. En même temps, l'éveil au sens, c'est le sujet premier. C'est-à-dire que la sexualité est l'objet. Ce n'est pas ni un moyen d'accéder, ni finalement le tournant d'une histoire d'amour. C'est aussi la sexualité en tant que telle qui est mise en avant.
Oui, voilà,
la sexualité féminine.
La sexualité n'est pas un moyen pour accéder à quelque chose d'autre, mais une fin en soi. Et ça, comme extase, moi, ça me fait beaucoup penser à l'amant de Lady Chatterley. parce que c'est ce que voulait faire D.H. Lawrence, l'auteur de Lady Chatterley, c'est que l'érotisme n'est plus l'expression d'un individu, mais bien un état de l'âme, un état de vie, et le moyen pour, que ce soit Lady Chatterley ou Jeanne dans Les Amants, de se révéler à elle-même. C'est grâce à cette scène d'amour et à une sexualité enfin épanouie qu'elle vit avec son amant Bernard, qu'elle peut enfin se rendre compte qu'elle s'ennuie, que sa vie ne lui plaît pas et qu'elle doit en fait quitter cette vie qui l'ennuie à mourir. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, après la scène d'amour, un peu plus tard, elle va écrire avec ses doigts dans le dos de son amant « vivre ».
Vivre, oui.
Et c'est vraiment, voilà, elle a pris le pouvoir sur sa sexualité. Grâce à ça, elle va pouvoir prendre le pouvoir sur sa vie et s'émanciper.
Alors, c'est aussi l'idée de la transformation. C'est l'idée d'un plaisir qui la métamorphose aussi de par l'éveil qu'il procure. Geneviève Sellier, quand on voit ces années 50-là, alors le film de Louis Malle, mais aussi un autre film dont vous allez nous parler, Mine l'ingénue libertine, on se dit que c'est une grande période d'émancipation de ce point de vue-là, en tout cas d'un regard nouveau posé sur les femmes et leur plaisir au cinéma, et que peut-être il y aura des retours en arrière par la suite.
Je ne sais pas. D'abord, il faut préciser que le film de Jacqueline Audry, Mine l'ingénue libertine, date de 1950,
50,
donc
oui.
Quasiment une décennie avant Les Amants, et que Jacqueline Audry, qui malheureusement a été littéralement effacée par l'histoire officielle du cinéma français.
Là, peut-être pour des raisons sexistes aussi, non ?
Bien entendu, mais je dirais parce que justement son sujet frontal dans la quinzaine de films qu'elle a fait entre 1946 et 1970 était l'émancipation féminine, à la fois l'émancipation par rapport à la domination masculine, mais aussi la recherche du plaisir. Et donc Mine l'ingénue libertine, d'après Colette, hein, Jacqueline Audry a adapté 3 fois Colette, et Colette a donné ses textes à Jacqueline Audry pour l'aider à monter ses films, parce qu'elle avait effectivement peu de soutien dans le milieu. Mine l'ingénue libertine avec Daniel Delorme, et à La Belle Époque, alors là aussi La Belle Époque est utilisée comme un moyen de... détourner la censure, en quelque sorte, à une époque, les années 50, où, justement, les femmes sont encore soumises à un contrôle patriarcal extrêmement répressif. Hein, l'avortement et la contraception sont interdites, et les femmes, on leur demande de faire des enfants, point barre. Et donc, Jacqueline Audry, en adaptant Colette, et en particulier Mine l'ingénue libertine, met comme sujet central la recherche du plaisir par une jeune femme qui a fait un mariage bourgeois dans lequel la question du plaisir féminin n'existe pas. Et donc, on va l'accompagner à sa recherche du plaisir. C'est un film très drôle, c'est une comédie. Et Daniel Delorme, qui est une figure d'ingénue, mais d'ingénue libertine, justement, c'est-à-dire qui n'a pas froid aux yeux, est merveilleusement... juste dans ce rôle d'une jeune femme qui entend parler autour d'elle de plaisir et qui n'en a jamais éprouvé même l'ombre. Et donc, on va la suivre dans son exploration auprès d'hommes et de femmes, d'ailleurs, de la recherche qu'elle finira par trouver du plaisir féminin. Alors, ce thème est complètement tabou dans le cinéma français des années 50.
Mais il va le rester très longtemps, Marie-Camille Bouchindon, quand on voit des films, alors je parlais de vagues peut-être d'aller-retour et de vagues réactionnaires, quand on regarde les années 90 encore, alors et pas que le cinéma français, le cinéma américain aussi, on voit que finalement le regard masculin perdure tout le temps et que l'orgasme féminin est très peu représenté. Et que la sexualité est beaucoup représentée du point de vue des hommes. Après avoir revu la leçon de piano, il y a quelque chose quand même d'assez terrible dans la manière dont cette histoire est agencée.
Alors, dans la leçon de piano, pour reprendre la question du mariage qu'on évoquait tout à l'heure, pour recontextualiser un peu l'histoire, c'est l'histoire d'Ada, une pianiste qui vient d'Écosse, qui arrive d'Écosse en Nouvelle-Zélande avec sa fille qui s'appelle Flora. Et elle vient pourquoi ? Elle vient parce qu'elle a été mariée, elle se marie à distance avec un habitant de l'île. Et ce mariage,
qu'elle est muette.
Elle est muette.
Que sa fille traduit ses propos.
Exactement, elle est muette, sa fille traduit ses propos et elle-même a un petit calepin dans lequel elle peut exprimer certaines de ses pensées, certaines de ses paroles intérieures. Elle peut communiquer avec les autres aussi de cette manière-là. Mais pas seulement, elle va communiquer avec son corps. Et ce qui se passe dans ce film, c'est que évidemment, c'est parce qu'il faut bien une histoire. Ce mariage ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'intimité entre Alistair et Ada. Et l'élément central qui va déclencher la découverte de sa sexualité avec un homme de l'île qui s'appelle George Baines, pardon. Eh bien, c'est le fait que le piano d'Ada, avec lequel elle est venue d'Écosse, va être abandonné par son mari sur la plage. Il ne voit pas l'intérêt qu'elle porte à cet instrument, pourquoi elle ne veut pas s'en détacher.
Et il est un de ses modes d'expression, la musique, c'est
tout à fait. C'est son mode d'expression, c'est son intériorité, c'est aussi l'expression de sa sensualité, puisqu'il va y avoir tout au long du film de très nombreux plans qui vont revenir sur les mains d'Ada, non seulement qui joue, ça c'est une chose, et la caméra de Jane Campion va passer des mains qui jouent au visage d'Ada qui éprouve le plaisir de la musique. Hein, et on va même dire de cette femme, une des habitantes de l'île, va dire de cette femme qu'elle n'aime pas son jeu parce que c'est un jeu qui vous traverse comme un orage, comme un climat. Et donc elle n'aime pas, elle préfère le jeu simple et direct. Tandis que dans la musique d'Ada, il y a l'expression de son intériorité, de sa sensualité. Et je reviens sur les plans aussi qui montrent les caresses sur le piano. Hein, et caresses sur les touches. Et donc ce piano, qui va être son mode d'expression, qui est un prolongement véritable de son corps, va être récupéré grâce à une négociation avec le mari d'Ada par George Baines, qui va ensuite demander à ce qu'Ada vienne lui donner des leçons de piano. Et ces fameuses leçons de piano, il y a à peu près une dizaine de visites qu'Ada va faire à Baines. Eh bien, très rapidement, hein, dès la première leçon, en fait, il veut juste écouter Ada jouer et surtout l'observer. Puis ensuite, à la deuxième visite, il va négocier, il va lui proposer un contrat, ce qu'il l'embrasse par surprise dans le cou, et il lui propose un contrat pour qu'elle récupère son piano.
Il y a une sorte de chantage sexuel qui se met en place.
Oui, alors, tout à fait. Alors, en échange de certaines choses qu'il veut faire pendant qu'elle joue, eh bien, il va lui proposer de récupérer les touches et le piano grâce aux touches récupérées comme ça, une à une.
Et là, on est quand même en 1993, et ce qui est montré, c'est que de l'état d'être quand même plus ou moins abusé, en tout cas être l'objet d'une négociation dont elle est victime, vient finalement son plaisir et son amour pour cet homme.
Oui, alors parce que ce contrat, c'est là où aussi dans le dispositif de l'histoire et dans le dispositif de Jane Campion, c'est que le contrat, en fait, il n'est pas si figé que ça. Parce que très rapidement, Ada, dès qu'il y a la négociation, au départ c'est une touche, et puis en fait, Ada, elle va négocier. Là, elle s'exprime. Hein. C'est pas un être passif. Faut pas le voir du tout comme ça. Elle va négocier et elle veut récupérer uniquement les touches noires. Donc les touches noires, il y en a 30, je crois. Donc ça réduit aussi le nombre de fois où elle va être obligée de venir donner ses leçons, enfin jouer pendant qu'il fera ce qu'il voudra. Et ce contrat, il va être renégocié à chaque leçon. Lorsqu'il s'agit de dormir, de s'allonger, c'est 5 touches. Lorsqu'il s'agit de s'allonger nu, côte à côte dans le lit, c'est 10 touches. Donc
il y a une grande ambivalence quand même dans le jeu qui est joué. Je propose qu'on en écoute un extrait.
Ada, I am unhappy because I want you. Because my mind is seized on you and can think of nothing else. This is how I suffer. I am sick with longing. I don't eat. I don't sleep. So, if you have come with no feeling for me, then go. out. Leave!
Avec une bouche d'homme, il faut préciser que c'est elle qui le frappe. En l'occurrence, elle est revenue le voir alors même qu'elle a déjà récupéré son piano. Et là, on comprend que le jeu de pouvoir bascule en sa faveur. Elle reprend le dessus sur ce contrat-là et lui montre son attirance à elle, sexuelle pour lui.
Oui, c'est vrai. Et puis précédemment, elle a aussi, je disais qu'elle c'est pas un être passif. Par exemple, lorsqu'il s'approche trop près d'elle et commence à la toucher, à toucher son bras, et que elle trouve que ça ne lui convient pas, que ça va trop loin, elle est capable de changer d'air au piano pour inhiber immédiatement le désir de l'homme pour elle. Et effectivement, lorsqu'elle revient le voir, moi ce que je trouve aussi assez subversif, c'est vrai, c'est que c'est elle aussi qui revient et qui va exprimer son désir, mais lui aussi. C'est-à-dire qu'on a un homme qui exprime, là, pour le coup, vraiment ses sentiments, son désir, le fait qu'il ne peut pas se passer d'elle. Et c'est aussi dans les représentations de cet homme, hein, incarné par Harvey Keitel, il y a Jane Campion, lui offre un personnage qui se met à nu au sens littéral et figuré. Et au sens littéral, Jane Campion va montrer de très nombreux plans d'Harvey Keitel seul ou avec la jeune femme, comme un corps nu, désiré, désirant. Donc on a toujours cet aller-retour entre le personnage d'Ada et le personnage de Bane. C'est aussi là où c'est intéressant, parce que c'est pas manichéen, c'est pas d'un bloc, c'est la vie, la sexualité.
Geneviève Cellier, pour revenir au cinéma français, c'est probablement au milieu, à la fin de ces années 50, avec le cinéma des Nouvelles Vagues, que l'image peut-être de la femme et sur la femme va évoluer petit à petit. Vous avez choisi aussi de nous parler du film de Roger Vadim, Dieu créa la femme, qui est une sorte de qui arrive comme une bombe aussi dans ce champ-là, parce qu'avec cette scène qui démarre, ce film qui démarre sur la présence de Bardot nu, qui offre à la fois une image extrêmement érotisée de la femme, mais qui offre un caractère aussi inédit. Sa personnalité est inédite.
Dieu créa la femme est vraiment une bombe, effectivement, qui inaugure une nouvelle période du cinéma français, en ce que, pour la première fois, un personnage féminin est montré comme... certes désirable, mais surtout désirant, et désirant de manière, extrêmement diversifiée. Elle commence par désirer une figure de macho incarnée par Christian Marquand, et puis elle s'aperçoit que c'est un salopard, et donc elle reporte son désir sur le petit frère incarné par Jean-Louis Trintignant, avec qui d'ailleurs elle aura une liaison sur le tournage, et avec qui, en quelque sorte, elle va inaugurer une relation non dominée. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le personnage féminin parvient à exprimer son désir, à le modifier en fonction de ce qu'elle découvre du positionnement des hommes auxquels elle a affaire. Il y a toute une palette d'hommes dans ce film, de Kurt Jürgens qui incarne le patriarcat bienveillant, mais bien sûr possédant, jusqu'à l'homme doux incarné par Trintignant, en passant par donc le macho incarné par Christian Marquand. Donc toutes ces figures masculines sont montrées dans le film de manière assez critique, et ce à quoi nous assistons, c'est l'initiation de la jeune Juliette, hein, personnage que joue Bébé dans le film, l'initiation et l'émancipation de la jeune Juliette qui, en quelque sorte, se frotte à tous ces hommes pour essayer de trouver l'endroit où elle pourra exister sans être écrasée, et tout en pouvant exprimer son plaisir. Alors, en même temps, c'est un film ambivalent, puisque...
En même temps, qui érotise, qui sursexualise tout.
Bien entendu.
Les hommes autour d'elle ont parfois deux fois son âge.
La grande habileté de Vadim dans ce film, c'est de construire un personnage féminin qui est à la fois un modèle émancipateur pour les jeunes spectatrices et la figure érotisée, le fantasme, comme il disait lui-même, le fantasme des hommes mariés.
On va écouter, je propose le début du film.
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme?
La tentation. J'avais dit que je vous offrirais peut-être une voiture.
Vous avez une voiture pour moi?
Oui.
Elle est là?
Je suis venu avec.
Qu'est-ce que c'est?
Une Simca rouge décapotable.
Où est la voiture? Vous m'avez bien dit.
Pas encore.
Elle est jolie.
Tu auras la même. Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux.
Je suis une croqueuse de diamants.
Pourquoi pas?
Oh! Ça va barder.
Bonjour, monsieur.
Des hommages, madame.
Ça fait une demi-heure que tu devrais être à la librairie. Naturellement, tu préfères te montrer nue devant des hommes, des vergondés. On sort une fille de l'orphelinat et voilà sa façon de vous dire merci.
Mais je travaille.
Ah oui, d'une jolie manière.
Je suis le seul responsable.
Ne croyez pas ça, monsieur Carradine.
Elle s'est mise en retard par ma faute. Si je peux arranger d'une façon...
N'insistez pas, monsieur. L'honneur de cette maison n'est pas à vendre.
L'honneur, madame, est un mode d'emploi délicat. Il demande beaucoup de cœur.
Au revoir, monsieur Carradine.
Au revoir, madame.
Geneviève Sellier, il y a deux figures de femmes en réalité qui s'affrontent. Il y a celle de Bardot et celle de la mère adoptive, en tout cas la famille d'accueil, puisqu'elle est orpheline.
Alors,
tout le fantasme est là quand même. La jeune orpheline, un peu perdue, très belle, qui a une origine comme ça, comme sortie du ruisseau.
Oui.
Et puis, le mythe est là quand même. Et puis derrière, il y a aussi ce personnage de femme patriarcale.
Au service du patriarcat, on dira.
Oui, hein, et qu'il assimile, elle, à la maison, à l'honneur.
Oui, alors c'est ce que le film de Vadim a de profondément ambivalent, c'est-à-dire que il appartient à la fois à l'ancien monde, c'est-à-dire où les femmes passées 40 ans sont soit évacuées, deviennent invisibles, ou alors sont transformées en mégères abusives. Et on en a plusieurs exemples dans le film. Jeanne Marquen, la mère adoptive de Juliette, et Marie-Glory, la mère des deux garçons, Trintignant et Marquant. Et donc, là, on a une forme de misogynie tout à fait classique, c'est-à-dire que les femmes sont là pour faire régner l'ordre, et en même temps, elles sont... dévalorisées parce que elles font régner l'ordre, pendant que les hommes, eux, qui sont en fait le vrai pouvoir, peuvent apparaître comme des séducteurs, souvent charmants. Le personnage de Carradine ici est typique de ce patriarche bienveillant qui camoufle son pouvoir face à une mégère qui veut l'empêcher de mettre la main sur ce joli petit morceau bien frais. Qui voudrait se garder.
C'est bien dit.
Et alors, bon, en même temps, l'intérêt du film, c'est que le possédant n'arrivera pas à mettre la main sur ce morceau, ce joli bout de fille. Et le joli bout de fille va se transformer, comme disait Simone de Beauvoir, en chasseur et non plus autant qu'on voudrait en faire un gibier. Mais elle va se transformer en chasseur et elle va... en quelque sorte, décider de sa vie.
Alors Geneviève Sellier, il y a l'ambivalence du sujet, de la manière dont il est traité, mais il y a aussi l'ambivalence de la caméra. La caméra, quand même, filme Bardot sous toutes ses coutures. Elle la filme en train de danser. Elle la filme justement d'une manière qui alors correspondrait à ce qu'on appelle aujourd'hui le female gaze, le regard masculin. Et là, il n'y a aucune ambivalence sur le sujet.
Oui, alors effectivement, en particulier la fameuse
scène
danse
du mambo.
Mambo dans la cave à la fin. Il est clair que la caméra, en morcelant son corps, correspond exactement à ce que Laura Mulvey appelait le male gaze, le regard masculin sur le corps féminin qui le morcelle pour le fétichiser. Mais en même temps, dans cette scène, Brigitte Bardot danse toute seule, pour elle, pour son plaisir. Et donc, il y a vraiment deux aspects dans cette scène. Il y a une femme...
Elle danse, mais elle est regardée.
Oui,
elle est sous le regard.
Oui, mais elle danse pas avec quelqu'un. Et elle danse, même si la caméra en quelque sorte, se fait le porte-parole des regards masculins, hein, le porte-voix, malgré tout, il y a une liberté dans le corps de Bardot qui excède en quelque sorte ce désir fétichiste des regards masculins qui se portent sur elle. Alors certes, la fin est extrêmement conventionnelle, hein, puisque Trintignant, qui est donc son mari, la gifle avant de la ramener à la maison, mais il y a quand même eu, pendant tout le film, des manifestations d'autonomie, d'émancipation, qui font que Brigitte Bardot appartient à une nouvelle ère. Ce qu'on pourrait appeler la femme moderne, dont Jeanne Moreau est, on pourrait dire, la version bourgeoise, et Brigitte Bardot est la version populaire.
Alors on peut dire qu'en revanche, la caméra ne s'appesantit pas sur la question de son plaisir à elle, féminin. Cette question est vite réglée. Marie-Camille Bouchain-Dôme, c'est la question du female gaze, pour le coup. La contrepartie, elle est beaucoup abordée dans ce portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Et là, les femmes sont filmées tout autrement. Hein. C'est des références à la peinture, à un corps gracieux, à un désir beaucoup plus équivoque en réalité qui est mis en place à travers notamment ce jeu de nu des deux jeunes femmes, du miroir qui cache le sexe et ce jeu de cacher-montrer.
Oui, d'ailleurs je voudrais signaler que c'est une chose dont parle énormément Iris Bray dans son ouvrage Le regard féminin, hein, et elle prend comme point de départ de ce regard féminin le film de Sciamma, le film de Campion, d'autres films de Campion, donc c'est vraiment un ouvrage très très important et intéressant pour se poser ces questions de ce regard féminin qui était déjà présent par endroit dans l'histoire du cinéma mais qui est peut-être en train de se construire, de se consolider avec notamment des films comme Portrait de la jeune fille en feu. Alors effectivement, il y a quelque chose dans cette passion qu'on découvre pendant les deux heures de film de Céline Sciamma, il y a quelque chose du désir et du plaisir qui va être, qui va tout simplement prendre son temps et qui va faire des corps des deux jeunes femmes, non pas un objet de plaisir à regarder, mais on est invité à participer à la naissance du désir et qui passe d'abord par le lien entre la peintre et la modèle, et puis...
un lien qui se tisse, hein, qui se construit peu à peu.
Oui, parce que ce regard, il est d'abord empêché, parce que Marianne est embauchée pour faire le portrait d'Héloïse, interprété par Adèle Haenel, mais à une condition, c'est qu'elle ne le sache pas, que Héloïse ne le sache pas, parce que elle a refusé de poser pour le peintre qui est venu précédemment, donc le portrait n'a pas été terminé, c'est un portrait où on voit un corps de femme dans une robe verte, mais qui n'a pas de visage, et d'ailleurs c'est une vision assez terrifiante hein, quand Marianne découvre ce tableau abandonné, inachevé.
C'est une critique directe de ce qui se passe au cinéma, en partie hein, notamment, ces corps de femmes qui ne sont que des corps,
ouais,
qui sont des corps
sans visage. Et puis d'ailleurs ça va passer aussi, ce corps sans visage, ça va passer par progressivement, je prends l'exemple de la robe avec laquelle Héloïse est représentée, mais sans l'avoir habitée, sans l'avoir revêtue, hein, puisqu'elle n'a jamais posé pour le peintre précédent. C'est tout d'abord une robe, la robe verte qui est apportée par la servante, Sophie. C'est une robe imposante, c'est une robe lourde, c'est une robe qu'il faut charrier de couloir en couloir pour l'amener jusqu'à l'atelier chambre de Marianne. Et puis peu à peu, ce vêtement va être revêtu par Marianne qui va poser à la place d'Héloïse pour essayer de se mettre à sa place et la peindre, parce qu'elle la peint en cachette, elle la dessine en cachette, elle est là pour la regarder mais sans qu'elle le sache. Et donc ce sont des regards qui sont en train petit à petit d'être empreint d'amour, hein, mais ça se joue vraiment avec le jeu de Noémie Merlant où on voit des variations dans la respiration, dans son regard. Et Céline Sciamma, elle insiste énormément sur cela, sur le changement du regard de l'une sur l'autre, de l'une et l'autre,
dans la nature, au bord de la mer. D'ailleurs, petit détour par les amants de Louis Malle, Esther Bréjon, il y a ce rapport à la nature que l'on retrouve dans ces deux films-là, dans les amants aussi, le plaisir est relié à un plaisir de la nature et des sens.
Encore un lien avec l'amant de Lady Chatterley. Effectivement, les amants se rencontrent vraiment, parce qu'ils se sont rencontrés une première fois au bord de la route quand Jeanne Moreau est tombée en panne. Mais la vraie rencontre des amants qui vont tomber amoureux, elle se fait dans la nuit. Déjà, ça change beaucoup là, cette présence de la nuit où les inhibitions peuvent tomber. Il y a la présence de la lune aussi. La lune, on sait que c'est un astre associé à une féminité puissante. Et il y a toute cette nature, ce jardin, donc il y a des ruisseaux, on entend les crapauds, ils vont faire un tour de barque sur une mare, ils vont dans les champs, dans le jardin, et c'est vrai que ça, c'est très important pour D.H. Lawrence, encore une fois, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, c'est qu'il associe l'éveil amoureux à la redécouverte de la nature.
Alors c'est aussi une idée picturale, hein, c'est aussi l'idée du printemps, finalement, dans la peinture. Marie-Camille Bouchindôme, c'est la mer qui est le motif de justement, puisque c'est une histoire insulaire aussi, l'histoire de la jeune fille en feu. Et finalement, elle s'est découverte à la plage où le corps est enfin libre, puisqu'elle sort du couvent, il faut bien le dire, et elle récupère ce plaisir de courir, de se baigner. C'est dans cet espace-là que se fait la rencontre avec un certain temps passé ensemble à se promener,
et d'ailleurs,
un rapport qui se tisse.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, la première vision d'Héloïse, à cet égard, elle est vraiment très très importante et très poétique. La première vision d'Héloïse, c'est une jeune femme qu'on ne voit que de dos et que le personnage de Marianne ne voit que de dos, descendant les escaliers et allant, ouvrant la porte qui donne sur l'extérieur de la maison et se précipitant. La jeune femme se met à courir. Marianne la suit parce que on comprend que la sœur d'Héloïse, on va comprendre plus précisément plus tard dans le film qu'elle s'est suicidée refusant le mariage qui lui était imposé. Hein. Donc il y a un enjeu de ce mariage forcé, c'est au risque de sa vie aussi. Et la jeune femme, Héloïse, se met à courir. Et la manière dont elle se réapproprie son corps, ça passe aussi par la manière dont Céline Sciamma la filme. Elle la filme de dos. La capuche qui recouvre son visage laisse découvrir son chignon, alors qu'il y a un chignon blond, défait. Et alors là, on est à l'opposé des chignons hitchcockiens, où il y a une fixation fétichiste, érotique, sur le chignon comme le sexe féminin qu'on pourrait regarder de dos sans qu'elle voit. Ça, c'est chez la femme hitchcockienne.
Ah, mais c'est pas que chez la femme hitchcockienne. Oui, dans Louis Malle, dans Les Amants, il y a tout un passage sur la coiffure, Geneviève Sellier. La coiffure est un marqueur du genre. C'est comme ça qu'on se distingue. Et d'ailleurs, cette réplique célèbre, tu n'as pas besoin de genre puisque tu as un mari.
Oui, enfin, disons que les amants opposent la bourgeoise superficielle de la première partie, une sorte de Madame Bovary du XXe siècle, à la créature passionnée et donc dont les cheveux se dénouent, sont dénoués de la deuxième partie. Alors, je voudrais quand même mettre un petit bémol sur cette figure de la révélation par la passion amoureuse dans le cinéma de la Nouvelle Vague. Jeanne Moreau va donc incarner à plusieurs reprises une femme amoureuse, par exemple dans Jules et Jim, pour citer l'autre grand film de Jeanne Moreau dans La Nouvelle Vague. Mais je dirais que le problème de ces films faits par des hommes, c'est qu'ils construisent des personnages féminins qui sont en quelque sorte réduits à l'amour et à la sexualité. Alors, qui n'ont pas de personnalité sociale.
C'est là où peut-être, en quelques mots, Marie-Camille Bouchindôme, on va revenir à l'innovation de Céline Sciamma dans sa manière, justement, de représenter à la fois des problématiques féminines, hein, c'est l'avortement aussi qui est représenté dedans, c'est la condition du mariage forcé, etc. Mais il va y avoir aussi toutes ces scènes d'humanité entre elles qui n'ont rien à voir avec leur genre.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a le fait de, pour revenir sur la question du corps et revenir à votre question, il faut se rappeler aussi que le personnage d'Héloïse est un personnage qui a passé toute son adolescence et son enfance au couvent. Donc, le rêve premier, c'est de sortir, courir et éprouver l'ivresse au bord de la falaise en s'arrêtant au dernier instant. C'est le fait d'aller se baigner dans la mer, d'éprouver les sensations, le corps, le vent qui vient vraiment caresser les visages contre lesquels il faut lutter, etc. Et effectivement, il y a toute une communauté féminine qui se crée dans le film. Les hommes sont absents, ils sont juste, c'est un rameur, c'est un homme qui vient exceller le tableau une fois qu'il est terminé. Vous avez peut-être un...
Et je disais juste qu'il va falloir s'arrêter parce que l'heure tourne. Merci beaucoup, Marie-Camille Bouchindôme, Geneviève Cellier et Esther Bréjon. Je vous renvoie au numéro de l'été de Revue et Corrigée qui s'intitule « Sexe dans l'histoire du cinéma ». Tout de suite, c'est la fiction « Imagine le monde de demain » de France Culture.
La démarche. Une fiction écrite par Maud Gallet-Lalande.
Bonjour, monsieur Calandry. Je me présente. Je suis. Pardon ?
Calandrin.
Bonjour, monsieur Calandrin. Je me présente. Je suis madame Alibert pour la société Gallosport. Je me permets de vous contacter dans le cadre de la campagne mise en place par notre société, pionnière depuis 9 ans dans le domaine du sport en salle. En effet, Gallosport souhaite réaliser un grand sondage auprès de nos clients, et nous l'espérons de nos futurs adhérents, afin de connaître leurs habitudes sportives dans le but de réaliser un profil personnalisé qui leur permettra de suivre un programme parfaitement adapté dans l'une de nos 312 salles Gallosport présentes sur le territoire. Cette enquête ne vous prendra que quelques minutes. Je vous remercie par avance de bien vouloir m'accorder...
Mais vous êtes une vraie personne ?
Pardon ?
Vous êtes une vraie personne ?
Tout à fait, monsieur Calandrin. Je suis madame Alibert pour la société Gallosport. Je me permets de vous...
Mais vous l'avez déjà dit, ça.
Excusez-moi, monsieur Calandrin. Cette enquête ne vous prendra donc...
Vous êtes impressionnante. Vous faites un peu peur. Non, mais ne le prenez pas mal. Vous êtes vexée ?
Ah non, bien sûr que non. Cette enquête ne vous prendra donc...
Mais vous avez un pistolet sur la tempe ou quoi ?
Comment ?
On dirait qu'on vous menace. Qu'on vous menace à... Je sais pas, à prononcer le plus de mots possible en un temps donné à l'avance.
Monsieur Calandrin, acceptez-vous de répondre à ce questionnaire simple qui ne vous engage...
Ça m'embête un peu. On pourrait pas plutôt parler de choses un peu plus intéressantes ?
Je tiens à vous signaler que dans le cadre de notre démarche qualité, cette conversation est susceptible d'être enregistrée.
Susceptible ? Ça veut dire combien de chances ?
Pardon ?
Mais combien de chances d'être enregistré ? Sur une échelle de 1 à 10, par exemple. Sachant que 0, c'est aucune chance d'être enregistré, et 10, c'est 100% de chance.
Monsieur, je ne suis pas en mesure de vous communiquer ces informations.
Parce que vous ne voulez pas ou parce que vous ne pouvez pas ?
Je ne suis pas en mesure de vous communiquer ces informations.
Oui, vous l'avez déjà dit, mais justement, vous ne voulez pas me communiquer ces informations ou vous ne pouvez pas me communiquer ces informations ? Alors je me permets d'insister parce que c'est important. Votre réponse déterminera la suite de notre conversation. Si vous ne voulez pas me répondre, alors j'aurai de vous une image égoïste, étroite et obtuse. Par contre, si vous ne pouvez pas me répondre, c'est différent. J'aurai l'impression que vous êtes une victime, qu'on vous tient à la gorge et que vous devez être sauvé. Vous me suivez ? Alors ?
Je suis désolée, je ne peux pas vous communiquer ces informations.
Ah, on avance. Bon alors, première question.
Oui, monsieur Calandry.
Brun.
Monsieur Calandry, à quelle fréquence faites-vous du sport chaque semaine ? Réponse A, tous les jours. Réponse B, 2 à 3 fois par semaine. Réponse C, 1 fois par semaine. Réponse D, jamais.
Et si je fais du sport entre 4 et 6 fois par semaine ?
Alors, je vous inscris dans la catégorie autre, en précisant la fréquence.
Ah mais non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste que je trouve un peu injuste pour les personnes qui font du sport entre 4 et 6 fois par semaine d'être rangées dans la catégorie autre, alors qu'elles font l'effort de prendre soin de leur corps régulièrement. Comprenez ?
Tout à fait. Merci de votre remarque. Je signalerai cette incohérence à mon supérieur. Quelle est votre réponse, monsieur Calandrin ?
Ça ne vous regarde pas.
Pardon ?
Ça ne vous regarde pas. C'est du domaine du privé. Je suis pudique.
Vous avez pourtant donné votre accord pour répondre à mes questions ?
Non. J'ai dit que j'étais d'accord pour que vous me posiez vos questions, j'ai pas dit que j'allais y répondre, c'est différent. Je fais ça uniquement parce que vous êtes une personne opprimée, qu'on vous tient à la gorge et que vous devez être sauvé. Vous êtes encore là ? Tout va bien ?
Je vous rappelle que dans le cadre de notre démarche qualité, cette conversation est susceptible d'être enregistrée.
Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, je vais vous répondre parce qu'en plus d'être une personne opprimée... Vous m'êtes sympathique. Question numéro 2, on y va. Je suis chaud.
Oui. Monsieur Calandrin, dans votre foyer, qui pratique une ou plusieurs activités sportives ? Plusieurs réponses sont possibles. Réponse A, vous. Réponse B, votre conjoint. Conjointe. Réponse pensez vos enfants? Répondez autre. Précisez.
Vous?
Moi?
Ah, vous aussi?
Moi quoi?
La A.
Hein?
La réponse A.
Ah!
Question suivante.
Oui, alors, monsieur Calandrin, diriez-vous que vous êtes un sportif? Réponse A, passionné. Réponse B, déterminé. Réponse C, intermittent. Réponse D, indulgent.
Autre, il n'y a pas?
Mais si, tout à fait, monsieur Calandrin. Vous pouvez...
Brun.
Mais si, tout à fait, monsieur Calandrin, vous pouvez me préciser votre réponse, que je reporterai donc dans la case autre.
Mettre les gens dans des cases, c'est ça qu'on vous demande de faire.
Je vous rappelle que dans le cadre de notre démarche qualité, cette conversation est susceptible d'être enregistrée.
Ah oui, suis-je donc bête? Alors mettez mérité.
Vous voulez dire méritant, comme un sportif méritant?
Non. Non, mérité comme mérité.
Je ne comprends pas.
Vos supérieurs vous demandent de comprendre vos interlocuteurs?
Non.
Ah, je suis déçu. J'ai eu comme un frisson d'espoir là tout de suite, mais votre réponse l'a aussitôt annihilée.
Je reporte donc votre réponse dans la catégorie autre. Monsieur Calandrin, depuis que vous pratiquez un sport, vous vous sentez réponse A, mieux, réponse B, pareil, réponse C, moins bien.
Autre, il n'y a pas?
Non.
Bon alors, A encore.
C'est noté, monsieur Calandrin. Question suivante.
On retrouve le rythme là. C'est bien, j'aime bien.
Oui, question suivante. Monsieur Calandrin, si l'un de ces sports était proposé dans l'une de nos 312 salles galop-sports présentes sur le territoire, lequel choisiriez-vous? Réponse A, tennis. Réponse B, jokari. Réponse C, football. Réponse D, 110 mètres haies.
Ski nautique, il n'y a pas?
Non, monsieur Calandrin. Voulez-vous que je répète les questions possibles?
J'hésite.
Entre deux réponses?
Non, à vous faire répéter.
Alors?
Je réfléchis.
Prenez votre temps, monsieur Calandrin. Je répète?
Non, je réponds. Foot.
J'inscris donc football comme étant votre réponse.
Non, pas football, foot.
J'inscris donc foot comme étant votre réponse. Question suivante.
Il y en a encore beaucoup.
Des questions?
Non, des réponses. Mais oui, des questions. Parce que vous m'aviez dit que ce questionnaire ne prendrait pas beaucoup de temps et que là, ça commence à être long.
C'est parce que vous parlez beaucoup aussi, alors en effet, on perd un peu de temps.
Mais vous avez le droit de me dire ça?
Excusez-moi, monsieur Calandrin.
Brun. Et ne vous excusez pas. J'aime bien sentir un peu de vous-même à travers vos mots. Je posais juste la question comme ça. Vous avez remarqué? C'est moi qui vous pose les questions maintenant. C'est amusant.
Tout à fait. Question suivante, monsieur Calandrin. Si vous souhaitiez... Non, si vous pouviez choisir une seconde réponse à ma question précédente, quelle serait-elle?
C'est un peu confus comme formulation. Vous me perdez, madame Alibert.
Je suis désolée, c'est vrai que c'est pas très clair.
On se comprend de mieux en mieux, vous et moi.
Je vais faire remonter l'information à propos de la rédaction de certains intitulés qui seraient, selon vous, un peu confus.
Ça, c'est bien. C'est une belle initiative de votre part.
Merci, monsieur Calandrin.
Faut continuer comme ça. Je suis fier de vous.
Merci, vraiment.
On va les avoir, madame Alibert. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Fini les questions alambiquées. Et ça sera grâce à vous.
Et grâce à vous aussi, monsieur Calandrin.
Brun.
Monsieur Calandrin.
Allez, on continue sur cette belle énergie et on poursuit ce putain de questionnaire.
On y va.
Bah allez-y.
C'est que vous n'avez pas encore répondu à ma question précédente.
La confuse?
Oui.
Donc un autre sport en plus de foot, c'est ça?
Oui, parmi ceux précédemment cités.
Eh, comme 110 mètres haies.
Ah oui, eh.
On enchaîne?
On enchaîne. Monsieur Calandrin, si plusieurs formules de séjour sportif vous étaient proposées par nos centres galop-sport, laquelle choisiriez-vous? Réponse A, la croisière sport détente. Réponse B, l'itinérance multi-activité. Réponse C, le week-end tonus. Réponse D, le camp d'entraînement intensif.
Le camp. C'est parce que vous m'avez inspiré.
Merci, monsieur Calandrin.
Allez, hop, on continue, parce que sinon je vais commencer à m'ennuyer.
Oui.
Notez bien que c'est ce questionnaire que je trouve abscon, pas vous.
Je note, monsieur Calandrin.
Vous avez remarqué?
Quoi donc?
Je vous ai pas reprise. Monsieur Calandrin, ça commence à me plaire. On dirait un mix de deux fromages.
Un double cheese.
Un double cheese, excellent. Vous avez de l'humour.
Merci, monsieur Calandrin.
Brie.
Hein?
Non, je plaisantais. On continue?
Allez, on continue. Monsieur Calandry, si vous deviez imaginer un slogan qui commencerait par « avec le sport », quel verbe choisiriez-vous ? Réponse A. Avec le sport, voyager ? Réponse B. Respirer ? Réponse C. Vivez ? Réponse D. Découvrez ?
Réponse C. Moi, je dis un peu au pif, hein, parce que cette question ne m'inspire pas.
Je comprends, monsieur Calandrin.
À vous non plus, elle ne vous inspire pas ?
Je vous rappelle que dans le cadre de notre démarche qualité, cette conversation est susceptible d'être enregistrée.
Ah oui, c'est vrai. Donc allez-y, posez-moi vos questions.
C'est la dernière, monsieur Calandrin.
Ça veut dire que nous allons raccrocher ensuite.
Je crains.
Vous allez me manquer.
Vous êtes sympathique.
Vous avez le droit de me dire ça ?
Oui, c'est même encouragé. Nous devons flatter nos interlocuteurs pour qu'ils se sentent valorisés et créer ainsi un climat de confiance et de convivialité.
Ah, donc votre compliment n'était pas honnête.
Il l'était, monsieur Calandrin.
Alors je suis content. Allez-y, posez-moi votre dernière question.
Tout de suite. Monsieur Calandrin, dans quelle ville vivez-vous ?
Ah, ça c'est facile. J'habite à Vaurèves, dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, les Hauts-de-France. C'est une jolie commune de 19 000 habitants environ. Pas très loin de Tourcoing, vous connaissez ?
Non. Monsieur Calandrin, je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes au téléphone. Lorsque j'aurai raccroché, merci de rester en ligne quelques instants afin de communiquer à notre répondeur automatique vos coordonnées. Vous recevrez alors chez vous un catalogue Gallosport qui vous donnera droit à 30% de réduction à valoir pour votre première inscription dans l'une de nos 312 salles Gallosport présentes sur le territoire. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons...
Madame Alibert ?
Oui.
C'est vraiment votre nom ?
Non.
J'imagine que vous ne me direz pas comment vous vous appelez vraiment ?
Non.
C'est tellement convenu aujourd'hui qu'on doit se maintenir en forme à n'importe quel prix avec des trucs que vous appelez sport que vous ne m'avez même pas demandé si j'en pratiquais un.
C'est vrai. Mais c'est pas indiqué dans le questionnaire. Voulez-vous que je fasse remonter l'information ?
Je suis en fauteuil roulant. Je peux pas marcher, je peux pas courir et je pisse dans une poche. Alors vous me direz, mais le handisport, monsieur Calandry ? C'est parce que je parle comme si j'étais à votre place. Mais le handisport, monsieur Calandry, c'est fait pour les gens comme vous. Et vous aurez raison. Ça me fout la déprime de rouler à 110 mètres haies. Ou de pas réussir à me relever tout seul si je me casse la gueule à ski. Alors je préfère regarder la télévision et bavarder au téléphone. Comprenez ? C'est pour ça que ça me rend un peu triste de raccrocher maintenant. Allez, on va pas verser dans le sentimentalisme. Gardez votre belle énergie intense et répétez-moi les réponses que je vous ai données.
Tout de suite, monsieur Calandrin. Donc, réponse A, autre...
Ah non, 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 non. Détaillez-moi les réponses. Parce que là, c'est un peu abstrait.
Oui. Alors, vous méritez mieux. Foot est le camp. Vivez vos rêves.
Imaginez déjà que ce soit possible. Et quand vous l'aurez imaginé, quand la possibilité d'un autre demain vous paraîtra envisageable, 100 journées de 10 heures, passer un pistolet sur la tempe, alors vous le ferez. D'accord ? Vous le ferez. Allez. Raccrochez vite maintenant.
Oui. Oui, monsieur Calandry. Je ne sais plus comment vous appeler.
Appelez-moi de temps en temps. Ça sera déjà pas si mal.
La démarche de Maud Galilalande. Réalisation Juliette Eman. Générique à retrouver sur franceculture.fr.
Vous retrouverez un prochain épisode de La Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, la cour de cassation de Rouen et la tradition des duellistes.
Dans notre voyage de Sources Seine à la mer, où où on descend le fleuve en allant vers le Havre. Nous arrivons maintenant à Rouen et nous sommes donc dans cette ville qui est la ville de Flaubert, de Jeanne d'Arc et de Le Canuet, un personnage également considérable de l'histoire nationale. Et c'est dans cette ville que je vais vous parler de la Cour de cassation et des duellistes. Nous voici donc, je reviens un moment quand même devant le bâtiment, devant le palais de justice de Rouen. C'était autrefois le Parlement de Normandie. La plupart de ces anciens parlements sont devenus des cours de justice. Et c'est ici que quelque chose nous dérange, je dois l'avouer. On a affaire à un édifice foisonnant, superbe, presque délirant, une sorte de rêve de pierre et madrépore, comme disait la Varande. Bref, le palais de justice de Rouen a de quoi inquiéter le justiciable. Il y a l'ancien palais de style Louis XII, début XVIe siècle. Il y a l'aile ouest que nous voyons en face de nous ou à gauche, là, avec son clocher gothique flamboyant. Et tout ça forme un ensemble de complexités mystiques, de détours et d'attention aux détails qui inquiètent le prévenu, dans tous les sens de ce terme. On croirait un avertissement. Ne rentre pas ici sans crainte, justiciable. Les juges ne sont pas des mortels comme les autres. Ils habitent d'étranges palais. La procédure est un édifice impénétrable, parcouru d'escaliers qui ne mènent nulle part, et de tourelles d'où se jeter sur le pavé une fois qu'on ne vous a pas donné raison. Et puis, la justice, si elle habite là-dedans, dans cette espèce d'édifice qui tient à la fois de Chambord et de l'hôtel de ville du Bocador, si la justice habite là-dedans, n'est-elle pas, au fond, la belle au bois dormant? Et qui peut se croire assez beau ou assez jeune pour la réveiller? Qui sait, enfin, si un sortilège dispensé au hasard d'un couloir baroque par un juge colleté d'hermine ne va pas vous transformer, vous qui veniez plaider une affaire de beaux ruraux, en entrepreneur de travaux publics concussionnaire, vous qui veniez pour une diffamation, vous retrouvez soudain divorcé d'office, comme il arrive parfois devant certains tribunaux du Caire. Ici, l'architecture réjouit, mais la justice inquiète, et c'est pourquoi je vous propose de nous réfugier dans la littérature, ou au moins dans l'entre-deux. Nous resterons d'ailleurs, ce faisant, assez fidèles à la mémoire de Marcel Proust, qui a placé dans ce bâtiment même l'un des pastiches les plus drôles de sa série « Pastiches et mélanges », où Sainte-Beuve assassine, à force d'imbécilité biographique, Flaubert, décrivant dans une nouvelle une audience du tribunal correctionnel de Rouen. Mais nous, la correctionnelle ne nous va pas, nous irons aux assises et en compagnie d'Alexandre Dumas. Je vais vous raconter une histoire de lion qui a mal tourné. Alors, il ne s'agit pas du tout du zoo, mais de ces dandys qu'on appelait lions sous la Restauration et qui agitaient Paris de leurs frasques, comme on les voit sous une forme d'ailleurs atténuée dans le Comte de Monte Cristo. Les curieux pourront feuilleter le petit livre d'Alfred Delvaux intitulé « Lion du jour, physionomie parisienne » qui est paru dans ces années-là, vers 1840. On y voit passer tous ceux dont je vais vous raconter l'histoire et aussi un personnage criminel auquel je suis très attaché, qui s'appelait Ernest Sureau de la Mirande et qui, pour l'amour d'une théâtreuse, a pillé un jour l'encaisse d'une succursale de la Banque de France avant de s'enfuir au Canada, d'où il fut extradé, ramené en France à Sainte-Pélagie, chargé de chaînes, donnant lieu à un arrêt célèbre de la Cour suprême canadienne. Mais ceci, comme le dit Kipling, est une autre histoire. Bref, en 1845, quelques jeunes lions donnent un dîner de célibataires dans un restaurant des boulevards. Dans ce dîner, il y a un nommé Rosemont de Beauvallon, un créole comme Dumas, voyageur intrépide, duelliste à l'occasion, joueur et grand tireur au pistolet. Et puis un journaliste exceptionnel qu'on a un peu oublié, qui s'appelait Dujarrier. Dujarrier était une grande célébrité de ce temps, il avait moins de 30 ans, il s'était associé avec Émile de Girardin pour fonder La Presse, qui faisait concurrence avec Le Globe pour publier de grands feuilletons. Et Dujarrier était à l'époque l'amant de l'extraordinaire Lola Montez, qui devait fasciner plus tard l'empereur Napoléon III. Vous voyez que les jeunes gens ne s'emmerdaient pas. Ce dîner n'est évidemment pas simplement un dîner de jeunes gens, il y a aussi des jeunes femmes, et notamment les plus belles actrices de variété de l'époque. Elles sont là, 5 ou 6, toutes très connues et absolument splendides. Bref, le dîner est à la fois joyeux, irrité et sensuel. Ce sont des jeunes gens superbes, fous d'eux-mêmes. Ils s'opposent pour des histoires de textes à publier, d'avaloirs de femmes. Et que sais-je encore, on gagne, on perd, on se doit sur parole, on joue au lansquenet, en faisant alterner les potages, l'eau sucrée et l'absinthe. Dujarrier un peu gris, oubliant Lola Montez qui l'attend sagement chez lui, lance à une actrice, Anaïs Lieven. Anaïs, dans 6 mois, je coucherai avec toi. Une obscure querelle naît avec Beauvallon et le lendemain, les deux témoins de Beauvallon se présentent chez Dujarrier qui désigne les siens. On choisit le pistolet. Dujarrier n'a jamais tenu un pistolet de sa vie. Il se retrouve un matin sur le pré au chemin de la favorite, au bois de Boulogne. Dujarrier tire le premier et manque. Beauvallon lève le bras, vise soigneusement et abat Dujarrier d'une balle entre les deux yeux. Réprobateur, son témoin lui dit « Vous tirez trop bien, monsieur Beauvallon ». le 13 mars 1845, on enterre cette gloire de la presse dans un cortège magnifique où les cordons du poil sont tenus notamment par Balzac et par Alexandre Dumas. Quant à Beauvallon, l'assassin, entre guillemets, il a fui en Espagne pour une raison assez simple, qui est que la Cour de cassation venait de changer sa jurisprudence. Pour le dire vite, jusqu'en 1837, elle considérait que la personne qui mourait au cours d'un duel n'était pas la victime d'un homicide, puisqu'au fond, il y avait une convention, que les deux parties s'étaient mises d'accord, qu'ils étaient en situation d'égalité, que les armes avaient été vérifiées, qu'il y avait des témoins, et qu'après tout, ils étaient réciproquement, en quelque sorte, dans une situation de légitime défense. Et c'est en 1837 que, sous l'influence du procureur général Dupin, la Cour de cassation change sa jurisprudence en considérant que cette situation d'égalité est factice, que les conventions du duel sont évidemment contraires à l'ordre public, et puis après tout, si on dit que c'est l'égalité qui compte et qu'un contre un ça va, pourquoi pas deux contre deux, quatre contre quatre, six contre six, et pourquoi pas des villages entiers. Bref, la Cour de cassation casse un premier arrêt de la Cour de Paris qui dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre Beauvallon et renvoie tout le monde devant la Cour d'assises de Seine inférieure à Rouen, et c'est là où a lieu le procès. Je vous ferai grâce des détails du procès, mais l'élément passionnant, c'est l'irruption dans ce procès, en qualité d'expert, d'Alexandre Dumas, expert en honneur, en duel de tout genre, et Dumas qui venait de publier Monte Cristo. Ce fut un épisode invraisemblable et qui fait rêver. Dumas, tel qu'en lui-même, improvisa un feuilleton qui transporta d'enthousiasme le public. Il entra dans la cour d'assises comme un roi, sommé de déclarer sa profession, répondit « Je dirais auteur dramatique si je n'étais dans la patrie du grand Corneille », ce à quoi le président, qui ne manquait pas non plus d'esprit, répondit « Monsieur, il y a des degrés suivant les siècles ». C'était une autre époque. Et puis tout y passa. Réduisant les protagonistes de ce drame, accusés, avocats, magistrats n'étaient plus que des figurants. Le procureur était Villefort, les témoins sortaient tous de l'auberge du Pont du Gard. Dumas commenta le code du duel de Château-Villard et plaida pour l'honneur et pour la mort. Ce fut éblouissant, absurde et, comme on dit aujourd'hui, un peu décalé. Mais en ce temps-là, où Hugo n'était pas vraiment apparu, le droit n'était pas réellement un instrument du progrès. On se demandait juste si les comportements correspondaient aux mœurs du temps, et sur le point de l'honneur, ces mœurs étaient hésitantes entre l'ancien monde et le nouveau. Dumas se fit intarissable, racontant les duels qu'il avait eus, et où Girardin et Hugo, précisément, avaient servi de témoins. On sait d'ailleurs que cette habitude a duré longtemps, et on a vu encore des résultats dans l'actualité récente. Les affrontements de Dijon, par exemple, entre les Tchétchènes et les Maghrébins, avec leur point d'honneur sous-jacent, ressemblent à ces guerres privées qui hantaient l'esprit du procureur général Dupin. Pourquoi pas 6-12 et les villages l'un contre l'autre. La drogue a remplacé les actrices, bien sûr, et les procès-verbaux sont signés dans une mosquée et non plus dans l'hôtel particulier de la comtesse de Morcerf, mais au fond, tout ça n'est pas si différent. Quant aux duels de particuliers, on sait qu'ils sont restés longtemps à la mode. Proust contre Jean Lorrain, Apollinaire défiant Cravant, Clémenceau, bien sûr, et plus près de nous, Gaston Defer. J'avoue que le duel me fait moins rêver que l'irruption de l'écrivain dans les cours criminelles. En relisant les pièces du procès, je me suis laissé aller à imaginer toutes ces occasions manquées qui nous auraient réjouis. Julien Gracq, témoignant au procès de Rion avec les mots d'un balcon en forêt. Aragon, revivant la semaine sainte au procès des généraux d'Algérie. Tom Wolfe égayant la correctionnelle par une description coruscante des années 80 façon bûcher des vanités au procès de la faillite du Lyonnais. Et peut-être demain Welbeck au procès des Gilets jaunes ou Tesson à celui tenu par contumace d'un ministre concussionnaire qui aurait décidé de se perdre dans les solitudes glacées de la Sibérie. Magistrat, faites appel à la littérature. L'air du temps serait ennobli, qui sait, peut-être la justice en serait-elle meilleure. On la verrait apparaître dans le vrai costume de l'existence, ce qui est mieux que nu et sortant d'un puits, comme on dit que la vérité apparaît. La justice, disait un bon auteur du second rayon, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas apparaître de temps en temps, on cesse d'y croire. Pensons-y un instant. Devant cette façade illustre, à deux pas de l'endroit où Jeanne d'Arc fut brûlée, tout près d'ici. Après qu'ait témoigné contre elle, Peggy le rapporte, Pierre Sureau, receveur général des finances de Normandie et collaborateur des Anglais, dont je ne souhaite pas me réclamer. Le lion de Poitiers, lui en revanche, voleur pour les beaux yeux d'une actrice de boulevard, rapatrié du Canada sous les chaînes pour être enfermé à Sainte-Pélagie, suffit à mon bonheur. Comme l'honneur, l'amour a un prix.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été à nouveau consacrée à la rentrée littéraire. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Shoshane Djergaillan, Lou Quevauvillier, Lila Bozès, Judith Kravitch et Mathieu Bellini, à la réalisation Lise Combe, à la technique Jordan Fuentes. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.